conception médiatique, on va aussi faire le cahier des charges. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de le finir aujourd'hui, ça va être dur parce que c'est toujours un très très bon morceau. Alors, je n'oublie pas que certains d'entre vous ont déjà mené des projets médiatiques. Alors, je parle de médiatique, tout média, aussi bien les médias très modernes, le web, un peu moins moderne, mais toujours dans la modernité, le multimédia, la vidéo, bien sûr. Un peu moins moderne, mais toujours dans la modernité, tout le secteur imprimé, tout le secteur print. Mais plus généralement, toute opération de communication qui utilise un ou plusieurs médias. Une opération de relations publiques, je considère que c'est un média. Je suis matouanien. Un événement, c'est une opération médiatique. Donc quand je dis conception médiatique, c'est à partir du moment où vous allez gérer quelque chose qui utilisera un ou plusieurs médias. Que ce soit les sites tout seul, la brochure, le prospectus, la lettre interne, le magazine, le film, vidéo, tout ce que vous voulez, les trucs plus originaux, hein, la bande dessinée, le théâtre d'entreprise, ça se fait, c'est passionnant le théâtre, j'ai des mémoires ici sur le théâtre d'entreprise, sur la BD d'entreprise. Il y a plein de trucs qui sont plus exotiques que l'éternelle vidéo, l'éternel site web et compagnie. Donc que vous fassiez de la bande dessinée d'entreprise, du théâtre d'entreprise, du happening, la performance, au sens artistique, la performance, les vœux de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne il y a 2 ans, je crois, ils ont fait une performance, c'était très très bien. Vous avez pour ça demandé à un peintre spécialisé de faire une toile en direct, donc sur un fond musical. Le peintre, sur une grande toile de 2 mètres par 2 mètres à peu près, nous a fait un tableau. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, c'était extraordinaire parce qu'il a commencé par un tableau très figuratif, animalier, genre girafe, gazelle, vous voyez, et puis tout ça s'est transformé en paysage. Il a fait revenir quelques visages humains, ensuite il a fait de l'abstrait, et puis il y a quelques bouts de visage et quelques bouts de machin qui sont venus dans ça.
En 15 minutes.
Ouais. Super fort. Et une vitesse. Il avait sa palette comme ça, avec une musique assez. En plus, c'était en suivant vraiment la musique, vous voyez, un peu rythmé quand même. Hein, et paf, comme ça, et vas-y, machin, bon, avec je te fais ça, avec une vitesse folle. Et un visage, par exemple, c'est avec deux mains. Hop, 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 et le visage, vous le voyez. Et alors là, ça, c'est chouette. Alors, on était tous frustrés parce que on trouvait ça beau, même depuis la gazelle au départ. Hein. Ah oh ben non, il a effacé la gentille gazelle, la plus gazelle, et ainsi de suite. Et ça coûte à la CCI, quoi, donc ben, le coût du tableau. Ils lui ont payé la performance et ils ont gardé le tableau en on leur l'entrée ou je ne sais pas trop quoi, ça fait quelques milliers d'euros, bien sûr. Normal, c'est parfaitement normal, mais pour quelques milliers d'euros, ils ont fait une très belle performance, ça s'appelle une performance. Le happening, c'est encore pire que la performance, encore plus déjanté. On en parlait dans d'autres circonstances. Voilà, donc, que vous fassiez un appel, une performance, un film, ou n'importe quoi, vous devez, à partir de maintenant, je dis vous devez, enfin, un professionnel, se doit d'entrer dans une démarche de conception médiatique et montrer que son professionnalisme de communicant passe par cette rigueur-là. C'est pourquoi j'ai mis en sous-titre, c'est une démarche rigoureuse. Attention, je m'adresse à vous en tant que communicant. Bon, c'est FUE, hein, il y a une SUE où vous êtes étudiant en train d'apprendre la méthode. Là, on est entre professionnels de la com. Je viens que c'est bon, à voir, mais là, c'est comme ça que FUE a été construite. Hein. Donc, je m'adresse à vous en tant que professionnel de la com, c'est-à-dire que je veux vous donner des conseils professionnels durs, vous donner des cadres généraux et réflexifs, et puis il y en aura bien sûr après. Et j'essaye surtout de vous donner le modèle général pour que vous puissiez vous l'approprier dans ce que vous aurez fait en stage, par exemple. Autre remarque liminaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Je parle un petit peu moins fort. Un petit souci d'orge depuis ce matin. Donc, autre remarque liminaire, c'est aussi de bien prendre en compte le fait que cette démarche de conception, je viens de dire, non seulement on va vous crédibiliser vis-à-vis de votre hiérarchie en stage, vis-à-vis des partenaires extérieurs, vis-à-vis de ceux qui vont bosser avec vous. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, que le communicant soit parfaitement capable d'être crédible vis-à-vis de tous ses partenaires, tant externes qu'internes. Ça va toujours dans la même démarche, légitimer, crédibiliser la fonction de communication. Ça part, ce cours que je fais depuis longtemps, hein, celui-là, ça part du principe que y a trop de professionnels en vidéo, en multimédia, dans le web, dans n'importe quoi, qui disent « Ah, les communicants, ils sont nuls, ils ne connaissent rien. Au moins,
ils sauraient. » Dernier élément, s'il y a quelque chose que vous pouvez vendre pour faire un stage, obtenir un stage, c'est ça.
Parce que grâce à ça, vous avez montré que vous êtes capable de faire un vrai cahier des charges. Il y a trop de gens qui disent « j'ai fait un cahier des charges » et quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est à pleurer tellement c'est nul. À peu près comme le plan de com' est à pleurer tellement c'est nul. Complètement nul. Ils y mettent qu'à Kim. D'ailleurs, ce que c'est qu'un cahier des charges quand on adopte une démarche rigoureuse. Encore une petite chose dans mon avant-propos. Si vous faites un bon cahier des charges, ben vous êtes beaucoup plus tranquille pour mener ensuite la réalisation à son terme. Si tout est cadré, parfaitement bien déterminé dès le départ, vous serez plus tranquille et ça fera une meilleure qualité.
Voilà, alors avant d'entrer donc dans le vif du cahier des charges, il y a une première étape que vous avez sous les yeux, c'est cette démarche dans la conception médiatique, c'est ce qu'on appelle, alors selon les professionnels, hein, ça dépend un petit peu des noms, on peut l'appeler ça le projet médiatique. Il y a peu de biblios là-dessus, hein, peu. On trouve ça dans la presse professionnelle, on le trouve dans mon bouquin sur les professions de la com, c'est diffus, on le trouve dans les stages, bien sûr. Ça peut s'appeler le dossier de prod. Ça, c'est très lié à la vidéo. Souvent, les gens qui sont dans, qui tournent autour de la vidéo parlent de dossier de prod, mais ça peut aussi se trouver dans le théâtre. On peut bêtement l'appeler le pré-projet, ça, c'est simple. On peut dire que c'est une démarche projet. On peut dire aussi, d'une manière encore plus simpliste, le plan général. Certains l'appellent la stratégie. Vous verrez que c'est autre chose, la stratégie, mais ça s'appelle parfois « voilà notre stratégie médiatique ». Ben oui, pas de problème. On peut l'appeler étude de faisabilité ou d'impact. Vous voyez, tous ces noms vont dépendre de l'entreprise, de la structure dans laquelle vous serez. Mais moi, j'aime bien l'appeler le projet, le dossier de prod ou le pré-projet. Bon. Alors, qui fait ce dossier? Vous, en tant que communicant, soit en tant que chargé de com, si c'est un petit ou moyen budget, en tant que responsable de com ou dire com, si c'est un gros ou très gros budget. C'est vous qui faites. À qui c'est destiné? Très simple. Votre hiérarchie. Votre hiérarchie, si vous êtes chargé de com, au-dessus de vous, c'est dire com ou responsable. Si vous êtes dire com ou responsable de com, au-dessus de vous, bah, c'est le codir, c'est le directeur machin truc, c'est le directeur des services dans une collectivité, etc., etc. Bref, c'est votre N plus 1 ou N plus 2. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Éventuellement, vous pouvez mettre en copie les gens qui sont à votre niveau, de votre équipe. Si vous êtes un petit service de com avec 3 personnes, ça serait sympa que les 2 autres personnes du service soient au courant de votre truc. D'accord ? Mais c'est tout, hein. Il y a un public très réduit, c'est un public rigoureusement interne à la structure dans laquelle vous le faites. Est-ce que vous le faites de votre propre initiative ou sur commande ? Réponse, les deux. Soit c'est vous qui êtes moteur du truc parce que vous avez repéré quelque chose et vous allez proposer une activité, un projet médiatique, soit la direction vous dit « Tiens, vous la com, vous pourriez pas nous faire un truc, là ?» Et là, c'est à vous la com de réagir, de vous emparer du projet, de vous l'approprier et de commencer à la mettre en place. Ok ? C'est bien vu ? Comment ça marche ? Si c'est pas clair, vous me m'interrompez. Hein. Encore plus dans cette UV, où, je vous dis, c'est... Je joue un peu le rôle de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous en la matière. Ah oui, au fait, je peux vous demander, est-ce que ça m'a servi à moi? Bien sûr. Vous savez, le nombre de trucs que j'ai pu faire passer, mon plus gros projet, mon plus gros cahier des charges, je n'avais pas atteint en euros, je n'ai pas atteint 1 milliard d'euros. C'était à 800 millions d'euros.
C'était dit.
C'est un mot, celui-là. Oui, 1 milliard d'euros. C'est en dessous de 800 millions.
Ça a rapporté?
Non, ça a coûté. Et on m'a pas écouté, on a préféré mettre des saletés d'ordinateurs français pourris qui s'appelaient des Thomson et des Bull, des saletés complètes. Et bien sûr, le projet s'est planté.
Il n'a pas été fait comme je voulais. J'ai mis petit point parce que c'est à vous de trouver un autre nom. Hein, pour trouver des noms très ronflants. Bien, qu'est-ce qu'on y met là-dedans, dans ce projet médiatique? On y met une première partie qui va s'appeler la conceptualisation. On va conceptualiser quelque chose qui est imprécis au départ.
Conceptualiser, bah, c'est par exemple le service, enfin la direction générale nous dit vous, la com, il vous faut une nouvelle plaquette de présentation de l'entreprise. Voilà. Une nouvelle plaquette.
Ok.
On va conceptualiser ce que c'est que cette nouvelle plaquette de présentation. Ou bien, il faut qu'on mette à jour notre site web.
Ok.
On va conceptualiser ce que c'est qu'une mise à jour. Et c'est ça tout. À partir d'une demande qui est imprécise, complètement imprécise, on ne sait rien, à partir de cette demande imprécise, votre boulot, vous, le spécialiste de com, vous êtes payé pour,
c'est de mettre ça dans une forme qui soit acceptable.
La première question que se pose un communicant, vous l'avez sous les yeux, le public. Toujours et avant tout, le public. Quand je dis ça, vous choque ou pas? Parce qu'il y a des gens qui font tout autrement. Il y a des gens qui mettent en premier les objectifs. Beaucoup de gens disent, un projet, on va commencer, et je suis pas totalement idiot, quels sont les objectifs, non? En soi, c'est pas une aberration que de dire, je commence par les objectifs. Si on est en communication, c'est ça la différence avec d'autres fonctions. En communication, on met en premier, non pas les objectifs, mais le public. Le public. Ça va? Si vous êtes un tout petit peu de nature créative, créatrice, vous pouvez être choqué par ce que je vous dis. Parce qu'au fond, ça a l'air de dire, voyons, je parlais d'un peintre il y a 2 minutes. Hein. Je suis peintre, plasticien. J'ai envie de faire une nouvelle œuvre ou une expo, donc il faut que je fasse plusieurs tableaux. À quoi je pense en premier? À mon public? Où est-ce que je mets dans les tableaux? Si je suis créateur, le public passe largement après. Vous voyez bien ce qu'il est? Pour un créateur, la notion publique est accessoire. Un créateur, ça crée pour qui? Généralement pour Dieu, ou pour lui, parfois entre les deux. C'est ça, la notion de public n'a pas d'importance pour un créateur. Un créateur se fout du public. Genre, je dis bien un créateur, je n'ai pas dit un créatif. Attention, attention, si vous allez voir un créateur, plasticien, musicien, romancier, etc., et que vous le traitez de créatif, vous recevez 2 baffes. Ne traitez pas un créateur de créatif, c'est comme de traiter un cuisinier de cuistot. Si vous allez manger dans une bonne table avec un cuisinier, eh merci cuistot, va bien manger, vous ramassez le tarte tout de suite là, il vous fout dehors. Non, mais, espèce d'abruti, si on est à confondre un cuistot et un cuisinier, ça ne sert à rien à la vie. Confondre un créateur et un créatif, c'est pas, c'est vexatoire pour le créateur. Le créateur, il crée parce qu'il faut qu'il crée. Parce qu'il considère que c'est important pour l'humanité entière, pour Dieu, pour lui, pour je ne sais pas quoi, c'est important, c'est au-dessus de lui. Donc il ne s'occupe absolument pas de la notion du public. Il se fout du public. J'adore citer le testament d'Ali Gestadt. Je doute fort que vous sachiez ce que c'est. C'est une ville allemande, on s'en doute. Il a été fait au tout début du 19e siècle par Beethoven. Beethoven est mort en 1827, et c'était bien longtemps avant sa mort, quand il a été atteint de surdité. Donc, vous êtes compositeur, vous commencez à être atteint de surdité, ce qui est un peu embêtant quand même pour composer la musique, hein, d'accord? Vous ne l'entendrez jamais, comme vous l'entendez dans votre tête. Bon. Et Beethoven serait déjà mort. Il a écrit un testament dans une ville où il était en cure, à Ingolstadt, et dans ce testament, il dit que lui, en tant que créateur, il crée avant tout pour Dieu. Son temps à lui, c'était pour Dieu. Mais la nature, mais du souhait, bon. Très bien. Il crée pour Dieu la nature, et Au fond, le fait que le public n'ait pas reconnu à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Mais nous, c'est très émouvant, c'est qu'il termine son testament, puisqu'il se voyait mourir, en disant, si de mon vivant, avant de mourir, je pouvais avoir une reconnaissance du public, qu'est-ce que ça me ferait plaisir? Mais il dit que ce n'est pas essentiel. Que le public ne comprenne pas ses œuvres, il s'en fout totalement. Et le nombre de créateurs qui n'ont pas été compris par leur public en leur temps, ils sont nombreux, non? Les grands peintres qui aujourd'hui coûtent des fortunes, tous les impressionnistes, les Van Gogh et compagnie, comme il a fini Van Gogh, la misère. Bah ouais, la misère noire. Et puis d'autres aussi, hein, et Rimbaud pour la poésie, et d'autres. Bon, donc ces gens-là n'ont pas une reconnaissance parce qu'ils se foutaient totalement la notion de public, vous voyez. Et ça, il faut bien comprendre que si on est dans l'ordre de la création pure, ce que je vous dis est totalement erroné. Et vous auriez le droit de protester énergiquement en disant, mais enfin, si je suis créateur, je ne crée pas pour un public. Nous sommes d'accord. Alors on va maintenant dire qu'en communication, nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes des créatifs. Étant des créatifs, on est payé par une structure. Cette structure met de l'argent dans une opération, il faut que ça serve à quelque chose. Vous voyez la différence? Alors parfois, c'est douloureux pour un communicant, parce qu'il arrive que les communicants soient aussi des créateurs. Ça peut se faire. Peut-être que dans votre vie privée, vous êtes musicien, on ne sait rien, moi. Vous faisiez peut-être de la musique, vous êtes peut-être un groupe de musique, je ne sais pas trop quoi, et là, vous avez un côté créateur. Et en tant que communicant, il faut articuler le moment où vous êtes créateur avec celui où vous êtes créatif. C'est pareil. Bien, alors, donc, si vous êtes créatif et dans la communication, première question que vous allez vous poser à vous-même et aux partenaires éventuels, bien sûr, c'est la question du ou des publics. Pour ça, vous avez deux outils. L'outil du marketing classique que tout le monde connaît, la segmentation. Ça, c'est un bel outil. On va dire que les publics, on va les segmenter. Hein, bon, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, pour dire ça de manière un peu simplette, les catégories socio-professionnelles, bien sûr, en fonction du travail, de la zone géographique, etc. Vous avez toutes les variables INSEE que vous pouvez mettre là-dedans. Chacun connaît, j'ai rien à vous dire, à vous apprendre. Ce qui est plus intéressant, c'est la notion qui est parallèle, qui avait été déjà évoquée dès les années 50 à partir de segmentation, ça date des années 50. Hein. C'est la concentricité. Et la concentricité, ça veut dire, comme le petit schéma va vous le montrer, la difficulté, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le... Oui, mais ça porte un nom en marketing. Un nom guerrier. Le cœur de cible. Hein? Le cœur. Il faut atteindre la cible au cœur. Et pour atteindre ce cœur de cible, il faut passer tout un tas d'autres publics. Par exemple, vous adressez aux enfants de 10-14 ans, 10-13 ans. Comment vous faites pour les atteindre directement? C'est pas simple. Hein? Les émissions de télé et les magazines, ça peut peut-être atteindre directement, mais souvent ça passe au travers des parents ou au travers de l'institution scolaire. Vous sentez qu'il y a des barrières. Avant que vous parveniez à votre cœur de cible, ben, il faudra un petit moment. Et chaque cercle qu'il faudra passer, ça vous coûte quelque chose, de l'énergie, hein, et souvent de l'argent. Donc, la segmentation, c'est ça, vous le voyez bien. Et la concentricité, ben, c'est la démarche inverse, c'est ma flèche rouge. C'est de se dire, puisque j'atteins mon cœur de cible, est-ce que je ne peux pas en même temps traiter cette cible-ci qui est juste connexe, éventuellement celle-là? Et c'est une démarche qui est totalement symétrique de la segmentation, puisque vous allez essayer de façon concentrique de traiter des publics. On disait tout à l'heure, je traite les 10-13 ans. Ouais, mais peut-être que je peux aller un peu plus loin. Certainement pas trop en descendant, c'est pas les mêmes, hein, ça ne fonctionne pas pareil, mais 13 ans, 14 ans, 15 ans, bon voilà. Donc je vais peut-être m'étendre un petit peu. Et là, je vais vous poser une question que je vais poser à chaque paragraphe. Qui va bien vous faire plaisir. Qui d'autre que le communicant est capable de déterminer avec précision les publics à atteindre, leur segmentation et leur concentricité? Qui d'autre que le communicant? Vous voyez bien la technicité professionnelle? Est-ce que c'est le chef du service machin qui va faire ça? je ne sais quel directeur, il ne connaît rien. Les notions de segmentation, quand on le paye finement, vous savez que ça peut être très bien la segmentation. Hein. Donc, ok, plus tout l'appareil juridique, parce qu'il y a parfois aussi des questions de droit, on ne touche pas les gamins comme ça, hein. C'est pas simple. J'ai vu un mémoire formidable il y a quelques années ici, au moment des grandes campagnes de prévention sida, préservatifs, etc., pour les cibles homosexuelles. Le problème était de dire on a déjà atteint ces cibles-là par les magazines qui leur sont dédiés. Très bien. Ok, on sait faire. On sait faire par tout un tas de trucs, mais il y a une partie de ces personnes qui sont plus sujettes à attraper le sida, mais une partie de ces personnes qui ne relisent pas les magazines en question et qui regardent tranquillement le JT de TF1 ou de France 2. Question, comment je fais pour faire passer un message sur l'usage du préservatif pour les homosexuels dans la publicité qu'on diffuse avant la 20h ? Vous voyez le truc ? La mémoire faisait tour de la question pour essayer de voir comment est-ce qu'il fallait, par quelques cibles, il y avait une très belle analyse CEO. Il fallait faire en sorte que la cible se reconnaisse dans les images, dans les petits spots, mais que les enfants, ils n'y voient rien. Vous voyez le truc ? Là, on avait un magnifique exemple d'un travail pour atteindre le cœur de cible difficilement et aussi en disant qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin, peut-être que les frères et les sœurs ou les parents des personnes homosexuelles pourraient dire « Ah bah tiens, voilà, j'ai vu un truc, vous voyez ?» C'était d'une finesse de mémoire et la campagne de l'époque était d'une finesse et d'une intelligence en repère. C'est ça, un travail de communication. C'est de savoir comment je vais toucher cette cible. Là, je prends un exemple un peu extrême, hein, mais comment je vais toucher cette cible alors qu'il y en a d'autres autour que je ne veux pas toucher et vis-à-vis desquels, si jamais... Il y a un gamin qui reconnaît un truc, je me retrouve avec l'association machin sur le dos qui veut mettre un procès parce que ouais, vous voyez ce que j'ai, c'est quand même des sujets un peu sensibles. Hein. Donc comment je fais? Réponse, eh bien, qui d'autre que le communicant est capable de faire ça? Quand dans une boîte, on est convaincu que ah bah il n'y a que le communicant qui sache faire ça, tranquille pour la crédibilité, non? Génial. Ça, il faut que le communicant en question il soit à la hauteur. S'il n'est pas à la hauteur, c'est simple, hein, on le vire, on prend un autre, et puis voilà, c'est pas un problème. Hop, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire dans la vie, je vous l'ai dit. Bon, deuxième élément de ce petit dossier, objectif. Vous voyez que je les mets en numéro 2 et pas en numéro 1. Les objectifs, vous les classez généralement en principaux, annexes et sous-objectifs. Alors, qui détermine les objectifs? Soit c'est vous, en tant que communicant, parce que c'est un sujet qui est dans votre domaine de compétence, soit c'est quelqu'un de la structure qui va vous aider, parce que lui, il aura ses objectifs. Si vous travaillez dans le médical, alors forcément le médecin ou le chef de service, il va dire, moi j'ai ça comme objectif, il faut que. Vous êtes dans un truc d'ingénieur, il faut que, vous voyez. Et pourquoi je dis qu'il faut classer les objectifs? Soyons rusés. Imaginez une seconde la situation. Vous êtes jeune communicante. Un directeur profile 50, 60 balles arrive en disant voilà, il faut qu'on fasse plutôt une plaquette, une vidéo, qu'on fasse le site web sur tel et tel truc. Et voilà mes objectifs. Oui, monsieur, aujourd'hui, il aura du mal à m'opposer à ce gars-là qui a 30 ou 40, peut-être 40, 30 ans. D'expérience, etc. Vous ne voyez pas la ruse pour pouvoir lui dire « Cher monsieur, attendez, quelque chose qui ne va pas. » Regardez bien le schéma que je vous propose. Qui connaît parfaitement les caractéristiques psycho-quelque chose de ses publics? Qui d'autre que le communicant les connaît bien? Qui a une connaissance fine, bien au-delà des CSP? Une connaissance fine de ses publics. C'est pas le communicant, c'est pas le directeur qui est dans son monde. Si vous avez une connaissance de ses publics, vous allez dire quoi au directeur? Monsieur le directeur, vos objectifs, ils sont merveilleux, extraordinaires. Mais pensez-vous qu'on puisse les atteindre pour ce public? Ça, c'est la belle ruse, parce que c'est vous qui reprenez la main placer les objectifs dans un ordre cohérent avec ces petits tambours. Génial. Si vous arrivez à faire ça, plus de problème. Directeur, on verra. Ah bah oui, d'accord, pas de problème. Si vous me prenez des billes en tête en disant Coco directeur, tu n'y connais rien, moi je te montre, là ça n'ira pas bien. Mais si vous lui montrez que pour les publics en question, le message ne passera pas, c'est bon pour vous. Le nombre de boîtes dans lesquelles on ne fait pas ça est faramineux, ce qui fait que beaucoup de productions, que ce soit des sites web, des plaquettes, des films, tout ce que vous voulez, c'est à l'arrivée totalement nul. C'est trop long, c'est trop court, c'est trop compliqué, c'est trop simpliste. Bref, c'est nul. Vous sentez le moyen fantastique que vous avez de reprendre la main, comme on dit, c'est-à-dire de diriger l'opération, alors que vous n'êtes pas compétent sur les objectifs. Mais vous êtes compétent sur ce qui est votre domaine de compétence, le public. Vous connaissez les capacités d'absorption du public. Il faut les connaître, hein. Ok, bon. Quand vous les connaissez, eh ben c'est vous qui allez dire. Il vaudrait mieux mettre cet objectif-là en numéro 1, parce que par rapport. Si notre public, c'est les femmes de, on sait rien, 35, 45 ans avec sans enfants, blabla truc, bon, vous connaissez très bien, et vous allez dire, ben non, pour ce genre de public-là, c'est cet objectif qui passera, et pas tel autre. C'est beau, non? Hein?
Bon, on est à la moitié du boulot. On a fait le plus gros. Le plus gros, c'est de dire quel public, quels objectifs. Il va y avoir un 3, ça va être quoi le 3 à votre avis? En particulier celles qui ont déjà une expérience de la conception, ça va être quoi? Bah oui, le choix du média. Hein, le choix du média, bien sûr, bravo. Une fois qu'on a déterminé public objectif, et ben là, on va se poser la question, quel est le choix du média?
Qu'est-ce qu'on va prendre comme média? Je connais le public. Je connais l'objectif, je l'ai classé. Ben, quel est le meilleur média pour ça? Est-ce que ça serait une plaquette? Why not? Un site web? Une vidéo? Si vous voulez. Et comment vous allez choisir le média? Eh bien, en fonction d'une échelle de qualité-coût des différents supports. Qualité-coût des différents supports. On rechante la petite chanson. Qui d'autre que le communicant connaît les qualités-coûts des supports? C'est vous. C'est savoir que, plutôt pour tel contenu, eh bien, il vaudra mieux prendre tel média. Et ça peut aller jusqu'à des trucs très techniques. On fait une vidéo? Ben oui, mais dans quel format on va faire la vidéo? Ça dépend ce qu'on fait. On fait l'expo photo? Ok, comment? Oui, c'est ça. C'est vous qui choisissez le média. Alors j'ai dit choix du média, il est tout à fait envisageable de prendre plusieurs médias. On peut très bien dire on fait un site web, on refait un site web et en même temps on va faire une plaquette. Ou préparer un événement de je ne sais quoi. Un clip radio.
Et le quatrième, eh bien, c'est la préétude de coût, c'est-à-dire le chiffrage approximatif global de l'opération. En deux étapes, l'enveloppe globale et la détermination des principaux postes. Donc il faut que dès ce moment-là, vous sachiez, cette opération, elle devrait nous coûter à peu près tant.
Alors, vous voyez, pour ça, je ne vous mets pas dans la position du particulier qui fait faire un devis à son plombier. Un particulier qui fait faire un devis à son plombier, c'est normal, vous n'êtes pas plombier, vous n'êtes pas la compétence du plombier, vous faites venir un plombier pour changer un robinet, il vous dit ça fait tant, je peux ou je peux pas, ok, simple. Là, vous êtes un pro. Étant un pro, vous devez savoir à peu près ce que ça va coûter. Hein, pas, on va dire fourchette, à peu près 20%. Vous êtes malin, vous pouvez prendre justement une fourchette mini-maxi. Alors pour ça, il existe des outils professionnels, on aura le temps d'en donner quelques-uns, mais pas tous, bien sûr, c'est par l'expérience que ça vient. Il y a des ratios qui permettent de dire, bon, un site web d'à peu près 30 pages, machin, hein, ça fait tant. D'ailleurs, un site web mieux que tour de page, avec quelques illustrations, pas trop original quand même, ça coûte combien de faire un site web, menu déroulant, machin, minimum. tarif normal, 2000 euros, 2-3000 euros aujourd'hui. Attention, ce n'est pas le site web d'un magazine de luxe ou de produits de luxe. Parce que là, vous mettez 1 ou 2 zéros de plus. Vous voulez faire une vidéo professionnelle, éclairage, un peu de décor. Je ne parle pas avec des comédiens connus, là, non. Il n'y a pas de limite. Hein. Combien ça coûte une vidéo à la minute de l'ordre de, vous savez, 1500 euros la minute, à peu près. Si vous faites un truc de 4 minutes, 6 000 euros. Ben ouais. Ici, on a fait, c'était une période, les étudiants s'en rappellent encore dans les anciens. J'avais une UE, audiovisuel multimédia. On a fait ça pendant 10 ans. Les étudiants devaient trouver un annonceur, on va dire, qui acceptait de payer une vraie vidéo, un vrai prix, diminué de la partie conception. C'était l'étudiant qui faisait toute la conception des vidéos, jusqu'au découpage technique, dans le tournage, tout, il faisait tout ça. Il choisissait un prestataire technique de Saint-Étienne qui savait qu'il y avait les caméras qui s'est filmé pour que ce soit pro. Et ensuite, on tournait. Et les budgets étaient de l'ordre de 2-3 000 euros. Certains ont mis jusqu'à plus de 10 000 euros. Dans mon bureau à côté, il y a encore une série de cassettes de ça, c'est du VHS. Et des boîtes de Saint-Étienne, ou d'ailleurs de Lyon, ont craché des milliers d'euros à des étudiants qui faisaient la vidéo, mais avec un prestataire technique qui assurait que les images et le son soient nickel. Ce n'était pas un petit boulot d'amateur fait comme ça, c'était parfait. Qualité en fait. Bon, donc connaître des ratios, etc. Voilà. Ben, ce dossier de conceptualisation, il s'arrête là. Ben, des postes principaux, par exemple pour un site web, ça va être, on va appeler ça maquette ou design du site pour une brochure ou la maquette. Et au coût des photos. Droit à négocier. D'accord? Après, ça sera coût de l'encodage pour le site web. Donc, comment est-ce qu'on, sur quel logiciel on va faire? Voilà, on va le programmer comment? Coût d'impression pour une plaquette. Voilà, le premier, c'est l'estimation globale. Le deuxième, on rentre dans le détail. Pourquoi donner une entrée dans le détail? Pour savoir si vous pouvez économiser quand il y a des soucis. Hein? Toujours, on bloque global et après, le cycle. Vous voulez changer votre voiture, on vous dit ça fait à peu près un budget de temps. Alors après, ben, dans le budget, vous essayez de. Et pour ce prix-là, vous mettez la clim ou vous ne pas la clim? Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Hein? Vous savez, derrière ces notions, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est triste, c'est que beaucoup trop de professionnels n'impliquent pas une démarche rigoureuse à ce qui est au cœur de leurs compétences. Et leur compétence, on est dans le fonctionnel. S'il y en a qui n'ont pas encore bien compris l'opérationnel, le fonctionnel stratégique, on est dans le fonctionnel. Pile poil dans le fonctionnel. On réfléchit public, on réfléchit objectif, on réfléchit choix du média, on réfléchit fric, budget, finance. C'est des tâches fonctionnelles. Ceux qui vont se taper le boulot, donc coder le site, web et compagnie, ça sera de l'opérationnel. OK? Bon, combien de pages ça fait ce truc? 2 pages? 3 pages, 4 pages, si vous voulez, pas plus. Pas plus. De toute façon, si vous voulez faire passer un dossier à des gens importants, il faut qu'il soit très court. Moi, j'ai appris ça quand j'ai téléchargé une mission. Et que la première fois que j'ai envoyé un dossier à un ministre qui s'appelait Gaston Defferre, forcément, je n'y connaissais rien pour ça. Hein. Donc, j'ai envoyé un dossier qui faisait 3-4 pages. Puis, son directeur de cabinet m'a fait comprendre que monsieur le ministre avait bien apprécié, mais qu'il n'avait pas le temps d'entrer dans le détail à ce point-là. Ça m'a servi de leçon. Toutes les autres notes que j'ai fait passer, c'était une page.
Après, pour les coûts, il faut bien les détailler. Tout ce qui est les coûts, il faut bien les détailler. Il faut détailler.
Non. Il faut juste mettre le coût global.
Un coût global et l'estimation. Alors, estimation de l'enveloppe globale, souvent par fourchette, hein, haute et basse. Et puis, estimation, je vous ai dit, des grands postes. Et vous mettez soit en euros, soit en pourcentage. La conception d'un site web, si je parle d'un site web à 3 000 euros, la conception d'un site web, si vous voulez une belle conception, ça peut être pratiquement 1 000 euros. L'encodage et le reste, ça va faire 1 500 euros. Et 500 euros qui restent, bah, ça va être le nom de domaine, le presse de l'hébergeur, enfin voilà. Bah, c'est ça que je vous dirais, c'est pas très compliqué. Alors pour un site web, c'est facile, il y a des opérations, c'est plus compliqué. Hein. Tu as ton entreprise, là, il faut être bon pour le faire, et c'est rare pour une entreprise, vous mettez du budget global. Vous n'allez pas trop entrer dans le détail. On entre dans le détail dans ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire on fait souvent du site web, on fait de la plaquette. La maquette d'une plaquette, bah, tant pour la maquette, 500 euros, 800 euros, tant pour la rédaction des textes, quelques centaines d'euros, ou la même chose pour le crédit photo, et puis le gros poste, ça va être impression, et puis le routage quand il faut l'envoyer, le diffuser. Donc impression, paf, on peut faire des milliers d'euros, tant d'exemplaires, et le routage, quand vous l'envoyez par la poste, paf. Normalement, reliure si c'est un truc épais. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous aurez cette année avec Pierre Poulet une UE dans laquelle vous allez entrer dans les budgets. Il va vous donner des exemples précis de budgets, des flyers machin, une plaquette 4 pages, 8 pages, 16 pages, quadricomie, offset machin, ça fait tant, un site web. Vous allez avoir quelques exemples de ce que coûtent les principales opérations. C'est ça qu'il faut savoir. Il y en a que vous ne connaîtrez pas, si vous me demandez le prix d'un sponsoring. En sponsoring bateau, voile. Si je peux vous dire, le départ du Vendée Globe, moi je me suis offert sur un bateau, à mes frais, j'ai bien négocié. Mais pour les voiles, si vous vouliez emporter une vingtaine de personnes sur une vedette pour participer au départ du Vendée Globe, c'était il y a un an, au mois de novembre, temps pourri, creux de 3-4 mètres. Vous voyez les petits sacs, vous voyez. Comme j'en ai un verre. Il faut avoir un bon budget de sac. Sinon. Bon, eh bien, et ça coûtait 1200 euros par personne. Pour la journée. Prise en charge le matin. Petit briefing, préparation, embarquement. 4 heures en mer. Retour. Apéritif pour ceux qui avaient encore. Bien sûr que ça. Ça a bien cogné quand même. Je m'étais malade en bateau. Bon. Et donc, voilà, ça, vous ne pouvez pas savoir, mais je donne exprès cet exemple que j'ai connu il y a un an. Et là, on ne va pas vous demander, en tant que jeune communicant, de savoir ça, vous vous renseignez auprès des. Voilà. Mais là, l'éternelle plaquette, de 4 pages, de 8 pages, machin, ça, par contre, c'est au cœur de votre boulot, vous allez en faire souvent, et là, il faut connaître.
Il y a un livre comme ça qui est
passé. Oui, bien sûr. Alors, il y en a plein. Si c'est pour la pub, il y a Tarif Média. Hein, le plus célèbre, c'est Tarif Média, qui donne les tarifs médias, parce que là, en ce moment, je ne parle pas de l'achat d'espace. Bien sûr, on peut aller dans le cas de la pub jusqu'à l'achat d'espace. Et dans ce cas-là, vous prenez tarifs médias, les tarifs médias vous donnent les tarifs, sachant que les tarifs, c'est ce que c'est pire que la négociation, je ne sais pas pourquoi, le tarif 700 est arrivé, ça peut être divisé par deux ou par quatre. Et puis, c'est très compliqué. C'est un métier, hein. Ouais. Media planner, là, c'est un métier. Donc pour la pub, vous ne pouvez le faire que pour l'enveloppe globale, à la rigueur, en sachant que ça coûte à peu près. Alors vous allez me dire, il y a peut-être une variance, c'est quand la direction vous dit, faites-moi ça, on vous accorde le temps. Pas grave. Ça veut dire que le 4, c'est pas vous qui déterminez, et ben voilà, vous savez que ça doit tenir dans l'enveloppe qui est. Ça fait rien. Mais sauf qu'il ne faudra peut-être pas choisir un média trop cher si vous n'avez que peu d'argent. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, par exemple pour imprimer une plaquette, on vous offre une plaquette à 1000 exemplaires, on vous offre une plaquette de 16 pages, on vous offre 4000 euros, vous ne ferez pas des miracles pour 4000 euros. Vraiment pas des miracles. C'est-à-dire votre papier sera standard. Vous n'allez pas faire un délire de l'impression et des super photos, des photographes. Parce que là, vous ferez un truc cucu, gentil, aimable. Là, vous éclatez à 4000 euros pour 1000 exemplaires. Si vous voulez vous éclater, plaquette de prestige, par exemple, genre ce qu'on vous donne dans les concessions automobiles, quand vous y entrez et que vous montrez un peu pas de blanche, là, vous les voyez, ces plaquettes, elles sont magnifiques. C'est une impression retaillée. Une plaquette comme ça, quand on vous la donne, c'est plusieurs euros le plaquette. Alors multiplier par quelques milliers, dizaines de milliers, vous voyez, on est sur des coûts qui sont très 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 élevés. Hein. Donc tout dépend
Ça dépend de la boîte, hein. Soit on vous le dit, soit c'est vous qui dites. Voilà, mais souvent, on peut vous dire, tiens, combien ça coûterait de faire ça, vous voyez? Ça nous coûterait combien? Eh bien, vous devez à peu près y arriver.
Je répète qu'en début de carrière, les stages, ça sert à ça aussi. Les stages, ça sert à apprendre, à vous renseigner, à lire la presse professionnelle, à lire Tarif Média et compagnie, pour avoir une bonne idée de ça, hein. Quand on était dans la LR4, on avait des abonnements à tout ça. Bon, depuis qu'on n'a plus de fric, il n'y a plus d'abonnements. Alors, ça, c'est très bien, on n'en parle plus. Bien, alors ce projet médiatique, il fait de l'ordre de 2 à 4 pages. Où est-ce qu'il va? On a dit ON plus 1 plus 2. Et là, il redescend. Alors, il y a 3 cas de figure.
Oui, on y va. Ouais, la vie est belle, on fait confiance, on va s'amuser. Non, on ne fait pas. Bon, ben, on va faire autre chose, hein, on va faire autre chose. Et oui, mais. Et oui, mais, ça sera. Ben, écoutez, cette enveloppe-là, c'est souvent ça. Hein. Non, non, c'est trop cher. Vous ne pouvez pas me le réduire de 20, 30, 40%? Ou alors, oh, vous êtes sûr qu'il faut faire une plaquette? Oh, c'est pas très fun, une plaquette aujourd'hui, pour ne pas nous faire un truc, réseaux sociaux, un buzz d'enfer. Et là, il faudra peut-être calmer en disant, attendez, buzz, voilà. Il y a des effets de mode. Les gens qui ne connaissent pas, ils ont lu dans leur magazine favori tel succès du buzz, hein, le PDG pour dire ça comme ça au début, mais, oh bah écoutez, moi je voudrais bien un buzz. Ça va être peut-être à vous de dire, écoutez, oui, mais voilà, c'est vous qui devez défendre le truc, toujours la même phrase, qui d'autre que vous dites dans la catalogue. Et là, vous avez votre crédibilité professionnelle. Personne ne viendra vous enquiquiner en disant, mais au fond, tu fais quoi dans cette boîte? Comment on peut dire, les communicants, tu ne connais rien. Hein, rappelez-vous ce que j'ai dit dès le remerciement de cette publication. Et là, c'est encore trop souvent ceux qui s'occupent d'organiser les cocktails et qui gèrent les petits fours et le champagne. C'est épouvantable, cette image qui nous colle à la peau depuis quasiment toujours. Et le seul moyen d'en sortir, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous montrer. Voilà, alors on va prendre le cas positif dans lequel votre dossier il est validé. Il est avalisé, comme on dit, hein, validé, avalisé, tous ces mots. Bon, en tout cas, bref, on vous dit OK. D'accord? Une fois qu'on vous a dit OK, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la deuxième étape. Et la deuxième étape, la voici. Deuxième étape, la conception d'un cahier des charges. Là, ça va être lourd, long. Un gros, gros morceau. On va essayer d'y passer le temps qu'il faut, qui passe vite d'ailleurs. Mais bon. Alors, origine du cahier des charges, quand même. Avant de vous dire ce que c'est et comment est-ce qu'on le construit, quelle est l'origine du cahier des charges? D'abord, pardon, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des cahiers des charges dans votre cursus antérieur, vous avez dû en faire, j'imagine. Hein, voilà. C'est logique, comme pour la stratégie. Vous avez déjà conduit des opérations stratégie ou stratégie, quand vous avez construit des stratégies, vous avez pu faire déjà du cahier des charges. Ce que je vous dis de la stratégie, vous le reprenez pour le cahier des charges. C'est-à-dire, ce que je vais faire, ça ne va pas être en opposition à ce que vous avez fait, d'ailleurs, ça va être légèrement plus complet. Hein, voilà. Alors, d'où vient, d'ailleurs, vous avez fait un cahier des charges, la question s'adresse directement à vous autres, d'où ça vient? Ce que vous avez dit, d'où ça vient? C'est déjà un premier manque. Quand on se sert d'un outil, vous allez redouiller ça, bon, quand même. Bon sang. Voilà, bon. Eh bien, ça vient du BTP. Nos amis du BTP, ingénieurs du bâtiment et des travaux, BTP, le béton, quoi, hein. Béton, canon, béton, boudron. Nos amis du BTP, qui ont à gérer des projets qui se chiffrent en millions, en dizaines de millions d'euros, on construit un grand pont, une autoroute, un quartier nouveau. Ce n'est pas les sommes qu'on a nous en communication, on s'en doutait un peu. Bon. Depuis le début, ils sont confrontés au problème suivant. On leur passe une commande, mais comment être sûr que la commande qu'on leur passe va correspondre à ce qu'on a vraiment demandé? Et c'est pourquoi dès les années... Alors ça s'est systématisé après-guerre. Ça se faisait déjà avant. Mais dès les années d'après-guerre, on a systématisé le... cahier des charges, qui chez eux, alors je peux vous dire, est un document opposable au tiers. Un cahier des charges opposable au tiers, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le cahier des charges peut faire l'objet de décisions de justice. En partie. charge et que le pont doit résister à une pression de tant de tonnes en son centre, c'est écrit. L'entreprise qui a fait ça a mis du béton qui fait les bras, ils n'ont pas mis assez de fer et ça va résister à moins de tonnes. Qui c'est qui est responsable? L'entreprise. Si vous avez mis un nombre de tonnes trop faible sur pied des charges et l'entreprise a fait bien son boulot, qui c'est qui est responsable? C'est pas l'entreprise qui a fait. C'est vous. C'est vous qui avez fait bien les charges. Vous voyez le truc, c'est très grave. Pourquoi quand on fait un pont, vous savez ce qu'on fait? On le charge plein de camions, histoire de voir. On surcharge, histoire de voir si. Bah ouais, ça vaut mieux quand même. Hein. Même s'il y a des super ingénieurs qui font des calculs extraordinaires, n'empêche que. Bon. Alors, ça remonte à une vieille tradition. Je vous ai dit que c'est après-guerre, mais en fait, il y a un vieux truc, il faut apprendre du vocabulaire. Celui qui va mettre l'argent dans l'opération, celui qui est l'équivalent du commanditaire ou de l'annonceur, qui sont des mots, commanditaire c'est pour la com, annonceur c'est pour la pub, ça s'appelle le maître d'ouvrage. Si vos parents, par exemple, construisent une maison, bah, sur les plans de la baraque, vous verrez, il y a écrit maître d'ouvrage, c'est les mêmes vos parents. Ils ont été maîtres d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui apporte le capital. Et aussi sa volonté. Et vous, en tant que communicant, vous n'êtes pas maître d'ouvrage. C'est votre boîte qui est maître d'ouvrage. En tant que communicant, vous pouvez être, mais ça peut être délégué aussi, maître d'œuvre. Pour le bâtiment, c'est facile. Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte. C'est celui qui va être le maître de tous les métiers qui vont graviter pour construire le pont, l'autoroute, etc. C'est l'architecte. Et ou l'urbaniste. Pour nous, en com, on reprend très bien ça. On dit que le maître d'ouvrage, vous avez dit, c'est le commanditaire, c'est la boîte. Et le maître d'œuvre, alors c'est qui? Ben, soit c'est vous, le Zercom, souvent c'est ça. Soit vous déléguez votre rôle de maître d'œuvre à un cabinet qui va vous faire la production. C'est possible. Vous allez faire une délégation à un cabinet spécialisé qui assumera la responsabilité. Attention, il faudra accepter de payer plus cher. Normal, non? Si le cabinet prend le risque à sa charge, il faut bien qu'il provisionne le risque, comme on dit. Et donc, je paierai plus cher. Vous savez, quand vous empruntez, bon, ce n'était pas le cas pour vous, j'en sais rien, mais quand vous empruntez, c'est l'histoire de l'assurance. Les gens qui disent, oh, j'emprunte son assurance, je m'en fous. Il y en a d'autres qui se plaignent d'assurance autour. Si vous prenez l'assurance, c'est plus cher, c'est pas grave. C'est des choix parfaitement logiques. Je ne dis pas après les montants, c'est votre affaire. Que ce soit une acquisition n'est pas notre problème ici, mais il est logique économiquement que si vous faites faire un boulot par quelqu'un, il soit rémunéré. Voilà, bon, donc maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Alors, qui rédige ce cahier des charges? Ben évidemment, c'est vous en tant que représentant du maître d'ouvrage et éventuellement en tant que maître d'œuvre. Qui sera destinataire du cahier des charges? Premier public, le public interne. Toujours pareil, la direction pourrait. Toujours diffusion interne d'abord, hein. Ça c'est clair, net, précis, toujours diffuser OnePlus1. Une fois que c'est validé, qui sera destinataire? Réponse, c'est le partenaire, les prestataires avec lesquels vous allez bosser. Ce qui est entendu dans le cahier des charges que vous allez faire travailler des gens extérieurs. Des web designers, des web managers, des imprimeurs, des graphistes, des photographes, etc. Des chargés de relations publiques, de relations presse, des personnes spécialisées dans l'événementiel, dans le mécénat, dans le parrainage, on va vous prendre toute la liste de comme de crise. D'accord? Vous prenez toute cette liste-là et c'est ces gens-là qui seront vos partenaires prestataires. Dans le public, c'est pareil, sauf qu'il faut que ce soit très rigoureux quand on va publier et que dans le public, on a ce nom absolument délicieux, d'une grâce exquise. Vous allez avoir des soumissionnaires à qui vous allez confier des missions. Soumissionnaires, c'est vachement chouette comme appellation. Des soumissionnaires. Des soumissionnaires, bah, par exemple, là, en ce moment, il y a des peintres patriés qui refont du travail, vous avez vu qu'il y a des bagnoles là. Ben voilà, ça s'est passé par et des charges avec une chose supplémentaire, l'appel d'offres. Ce que je vous ai dit, que c'est transmis à vos partenaires, il y a deux façons pour le transmettre. La façon du privé la plus rapide, c'est directement, on appelle ça gré à gré. Vous connaissez un prestataire, vous lui demandez son prix sur le cahier des charges. Ça, c'est le monde d'avant. Pratique. On connaît bien. s'enquiquiner à chaque fois et dire est-ce que, bon, peut-être que vous faites pareil pour vos achats. Est-ce que vous passez du temps à faire le tour de toutes les grandes surfaces pour noter, ça c'est un coup de temps. Quand vous connaissez une boutique, vous y retournez pendant un certain temps, vous faites confiance. Et peut-être que vous êtes pas comme ça. Je vous dis tout, c'est tout, c'est simple derrière, c'est pas la tendance actuelle, c'est plus du tout cette habitude-là, c'est au contraire mise en concurrence systématique. Mise en concurrence systématique. Dans le public, c'est obligatoire. Et c'est lourdingue. Il faut que les soumissionnaires mettent ça à une date précise, dans des enveloppes cachetées, rendues anonymes. Il faut qu'une commission se penche au truc et note les dossiers de manière anonyme. Il faut que... On n'en finit plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous en doutez, non? Pour essayer de chasser les prévarications. Prévarications. C'est le nom officiel et joli des pots de vin. Vous comprenez mieux le pot de vin, hein? Oui, mais le pot de vin, c'est pour du mariage famille et prévarication. Ah, c'est exactement ça. Donc, si vous êtes un priveur et moi, je suis chargé de com, je dis bon, tout fait ça, ouais, d'accord, tu me montres un peu la note, hein, ça fait 3000 euros, et puis bon, vous m'invitez au resto, je vais passer plein de petites enveloppes avec 3000 euros. Je connais tous des exemples de gens qui se sont fait construire des maisons, qui ont détourné de l'argent de tous les moyens possibles, qui sont fait payer des voitures, des voyages au bout du monde. Quand c'est la caisse de champagne, ça va, c'est pas méchant, mais ça peut être beaucoup plus que le champagne. Alors, pour lutter contre la prévarication, on s'est armé avec toutes ces procédures d'appel d'offres. On va essayer de choisir ensuite, mais ça je le dirai après, hein, de choisir ensuite bah, parmi tous ces soumissionnaires, bref, ces partenaires, ces sous-traitants, on va essayer de choisir celui qui est le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire celui qui fait le meilleur boulot au prix le plus bas. D'accord ? Et ça, c'est pas toujours ça. Alors là où c'est peut-être le plus rigolo, c'est en pub. En pub, c'est bien institutionnalisé aujourd'hui. Les grands annonceurs gardent une agence pendant plusieurs années. Mais tous les... Alors ça dépend des cycles, ça dépend des produits souvent, hein. Les 3, 4, 5 ans, c'est rarement, enfin c'est entre 3 et 5. Hein. Là, on prend le bac de combat général et on remet toutes les agences en concurrence. Et c'est comme ça que la presse professionnelle vous dit que telle agence a perdu le budget Renault, qu'il a passé à machin. C'est un jeu de chaise musicale. Hein. Vous allez perdre ici, vous allez peut-être en gagner un autre là, ça permet de motiver les troupes pour bosser, mais c'est le moment où les agences de pub, tout le monde bosse toute la nuit, le week-end s'il faut, parce qu'il faut remettre toute la réponse qui est très très structurée pour des dates qui sont généralement très très courtes. Ça fait partie du jeu. Le cahier des charges est là pour voir si vraiment vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, de toute façon, vous ne serez pas prêt à temps. Si vos troupes ne suivent pas pour passer le week-end, vous serez... Voilà. C'est pareil pour l'architecture. Le cabinet de Jean Nouvel, un des grands architectes français. Vous savez qui c'est, Jean Nouvel ? Hein ? Bon, peut-être que vous savez l'impression. Il était autrefois à Lyon. 100 personnes. Donc 90 archives. Et un masse salariat. Bah, si vous l'aviez pas, vous avez une petite idée quand même. Un architecte dans un grand cabinet d'archives, il faut quand même bien payer, sinon il va chez le concurrent. Bon. Très bien. Cette année-là, Jean Nouvel a perdu plusieurs appels d'offres de suite. Quand vous répondez à un appel d'offres, vous allez faire bosser toute votre agence, les 100 personnes qui ont bossé plein temps et même plus, pour correspondre, faire les maquettes, les plans, les machins, tout. Premier appel d'offres perdu, deuxième appel d'offres perdu, ça a duré 6 mois. Vous dépensez beaucoup de trucs, et il ne rentre rien. Comment vous plaît. Même si vous avez une cagnotte, hein. La cagnotte, elle va tenir 2 mois, 3 mois, qui a de l'avance. Il y a des paysans qui ont 2 ans d'avance de trésorerie. Vous connaissez des boîtes qui ont 2 ans d'avance de trésorerie, à part Apple, hein. Eux, ils sont là. Mais 1 ou 2 ans d'avance de trésorerie, vous voyez ce que c'est, même par rapport à votre budget, vous avez comme avance. Votre budget annuel, vous l'avez en vie. Bon, donc ça veut dire que ce cahier des charges est quelque chose qui va moraliser, dit-on, professionnaliser les relations entre les prestataires et les maîtres d'œuvre. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ben, la prévarication sont toujours là. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, il y a toujours moyen de faire des ententes illicites et des procès pour ça. Hein, des procès, parce que ceux qui vont soumissionner, ils se mettent d'accord entre eux. Les patrons des sous-traitants s'appellent en disant, dis donc, ça c'est pour toi. Bon, d'accord, je te le laisse. Donc moi, je vais mettre un prix très élevé. Par contre, ça, c'est pour moi. Ok, d'accord. C'est ça que ça se passe. Personne ne vous le dira, bien sûr. Alors après, votre point de vue de citoyen, il est ce qu'il est. Hein. Ok, là, je ne vous demande pas votre point de vue de citoyen pour me dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est une autre affaire. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, voilà tout ce qu'il faut savoir sur d'où vient le cahier des charges. Alors, ce document, lui, il va pas faire 2 pages, hein, il peut faire 10, 20 pages. Sur les gros cahiers des charges, ça peut monter jusqu'à 50, 60 pages. Et le coût est exorbitant. Par exemple, pour vous donner une petite idée, la réponse à un cahier des charges dans le cadre du bâtiment, pour faire un pont ou un tunnel, on y passe allègrement 3, 4, 5 millions d'euros. C'est-à-dire que vous dépensez 5 millions d'euros uniquement pour espérer obtenir le job. Et si vous ne l'obtenez pas, vous avez dépensé 5 millions d'euros pour détruire. Vous voyez ? C'est risqué quand même. Hein ? Mais si vous ne dépensez pas vos 5 millions d'euros, du coup, vous n'aurez pas le marché. Hein, c'est très très difficile. Alors pour nous, en communication, ce n'est pas 5 millions d'euros, hein, évidemment. Mais proportionnellement au chiffre d'affaires, c'est quand même la même chose. Il faut avancer beaucoup d'argent pour répondre à ça, ce qui fait qu'il y a des boîtes qui répondent parfois même plus au cahier des charges. Dans vos intervenants, il y en a qui ne font jamais d'appel d'offres. Parce que, autrement dit, ils ne travaillent pas, pratiquement pas pour le public et pas pour le privé qu'ils le font. Bon, allez, on y va. Sur la première partie, alors, votre cahier des charges, il va contenir une première partie qui peut s'appeler soit objet du présent cahier des charges, c'est le titre simple, soit exposer les motifs, ça j'aime bien, exposer les motifs. D'où ça vient, s'il y en a qui ont de vagues connaissances juridiques, avant de faire une loi, une grande loi de la République, avant, vous savez, titre premier, article premier, il y a toujours exposer les motifs. Pourquoi le législateur a-t-il décidé de légiférer? Pourquoi? Ça, c'est très bien parce que ça permet de justifier, de mettre en perspective, de montrer comment l'action publique de la loi est là pour soit régler un problème, c'est toujours ça, soit régler un problème, soit on veut faire avancer les choses. C'est soit préventif, soit curatif. Et exposer les motifs, moi j'aime bien, je trouve que c'est une belle appellation. Vous pouvez appeler ça pour les gomènes. Ça, c'est pour faire vieux jeu, un peu ringard et compagnie, c'est juste pour sourire. C'était le mot qu'on employait autrefois, pour les gomènes. Aujourd'hui, c'est noté pour les gomènes. Ne le mettez pas. C'est juste pour votre culture personnelle, pour entrer dans un peu de vocabulaire. Et puis, ça peut aussi s'appeler, comme je vous le dis, tout simplement, finalité. On a déjà dit qu'il ne fallait pas confondre les finalités et les objectifs. D'accord ? C'est très court, ça fait quelques lignes. Et en quelques lignes, eh bien, vous devez exprimer, et ça c'est un sacré boulot, pourquoi vous allez dépenser du fric pour faire quelque chose. Pourquoi vous allez dépenser du fric pour refaire le site web. Pourquoi vous allez dépenser du fric pour faire une plaquette, un film, etc. Petit conseil de rhétorique. Faites des phrases qui soient très courtes et très très impliquantes. La philosophie générale de ce projet s'inscrit, et on y va. Dans les interrogations actuelles sur la vie et la mort. Vous allez mettre un truc, par exemple, on a une passionnante mémoire sur quelques années, sur la fin de vie, avec le patron de l'association d'aider les gens pour les fins de vie. On ne peut pas aborder un truc, vous allez faire un film sur la fin de vie, vous ne pouvez pas aborder ça sans quelques considérations philosophiques quand même, non? Bon, ça peut être moins triste. La philosophie générale de ce projet s'inscrit dans une nouvelle relation sociale induite par le buzz ou par les réseaux sociaux, ou je sais pas quoi. Hein, mais vous donnez un cadre qui peut être philosophique général, pourquoi vous allez faire ça, comment ça se situe, la modernité, la postmodernité, blabla. Dans la société actuelle, un certain nombre de grands problèmes se posent, ils n'ont pas reçu de réponse aujourd'hui. Voilà. Essayez de commencer d'une manière qui soit forte. Alors moi qui ai assez cogné sur le côté soviétique, syndicaliste de l'université française, c'est vraiment de rendre hommage à un grand texte. Par quoi commençait le manifeste du Parti communiste, co-signé par Karl Marx et Friedrich Engels? C'est mon truc, j'ai lu ces gens-là, hein. Il y a une chose intéressante, on ne va pas croire. Donc vous avez dû voir ça en philo. Les philosophes se sont contentés jusqu'à présent de penser le monde. Ouais. Il s'agit de le changer. Ouais. Tout est dedans. En deux phrases, tout est dedans. Voilà. La philosophie sert pas à penser, mais maintenant, avec ce manifeste, à changer. C'est fort. D'un coup, on sait moi, là, c'est. Vous voyez la force du truc? On y a des repas, ce n'est pas mon problème. C'est très fort. Et bien, c'est de faire aussi fort que Marx et Engels. Si ça vous amuse.
Bon, on peut. Je vais donner quelques autres exemples de phrases. Hein. Des nouveaux usages apparaissent dans la société, de nouveaux usages sociaux, de consommation, blabla, très bien. L'urgente décision publique appelle à, en matière de sécurité, l'urgente décision en matière de représentation des Roms dans la société française, enfin, si vous voulez, on peut prendre des trucs. Hein. Le mot visibilité, qui est très à la mode depuis une dizaine d'années, eh bien, allez-y, servez-le à toutes les sauces. Les décideurs adorent la visibilité. Ils adorent ça, il faut leur tartiner bien épais. Ils aiment ça, la visibilité. Nous ne sommes pas assez visibles. Personnellement, je rigole, mais on va bronzer comme ça, faites-le, parce qu'il faut aussi aller à la mode. Si vous n'êtes pas dans la mode, vous serez perdu. Hein. Les attentes sociales, les attentes économiques, les attentes des retraités, des seniors en matière d'eux. Donc il faut faire, par exemple, une action d'information en matière des retraites, hein, parce que les attentes sont grandes et les inquiétudes aussi. Voilà, vous voyez, vous avez. Donner un cadre général, une finalité, quelque chose qui donne du souffle. Alors, pourquoi il faut faire ça? Je suppose que vous êtes en train de vous dire peut-être, mais au fond, pourquoi je fais ça? Première raison, on va dire deux raisons essentielles. Première raison, parce que si vous êtes OK sur les finalités, c'est fou comme tout le reste ira vite et bien. C'est un petit peu se raccrocher à quelque chose qui vous dépasse et pour lequel vous allez vous transcender, vous allez vous défoncer. On ne fait pas bouger les gens pour des choses trop simples et trop bêtes. En fait, se bouger les gens, c'est quelque chose qui les motive, qui les dépasse, qui les transcende. La deuxième raison, c'est parce que ce que la direction générale va lire de votre cahier des charges, ce sera généralement les deux premières pages, dont celle-ci. Si la direction générale est d'accord là-dessus, ils n'iront pas là-dessus. Et s'ils ne lisent pas le reste, c'est merveilleux pour vous. Ça veut dire qu'ils vous font confiance, quoi. C'est votre problème de communicant. Dites-vous, vous êtes compétent. Pas la direction générale qui va vous dire si vous verrez plutôt comme si, si la plaquette sur l'affaire de cette machin, et je m'en fous, c'est pas mon problème. Je suis d'accord sur les finalités. Votre boulot, c'est de le faire bien. Et à vous d'utiliser vos compétences pour le faire en mieux. C'est un moyen pour vous crédibiliser, c'est pareil, ça vous crédibilise. Et peut-être par ricochet, ça vous donne confiance en vous. Parce que d'un coup, la confiance va croître si jamais, au-dessus de vous, on dit « Bah ouais, c'est bien votre truc, j'y adhère, c'est chouette !» Quand les ministres concernés à l'époque ont lu mon cahier des charges sur cette opération, après la Ligue pour tous, j'avais tartiné quelques finalités avec lesquelles de faire ministre en personne dans son bureau, m'a dit « Mon jeune ami, c'est vraiment très bien, je suis complètement d'accord avec vous. » J'étais tout genou, tapis de fer à l'époque, que les... Qu'est-ce qu'il y avait dans mon milieu d'info? Le Bébé Chaud. Le Bébé Chaud présentait ce ministre comme un vieux gâteux. Complètement taré. Et moi, même étant quand même un petit peu distant par rapport à ça, je m'attendais à ce que le ministre soit vaguement comme on rencontrait dans ce Bébé Chaud. Aujourd'hui, il est guignol. C'est pareil, il est en plus le même truc. Hein, c'est exactement ça. Quand j'ai vu que la fille de fer, quand je lui causais. Il disait, bon, alors, si je vous comprends bien, il m'avait dit ça, 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 et en 20 secondes, il avait décortiqué tout mon truc, quoi. Sans prendre de notes. Et vous dites, oui, bon, d'accord, c'est un calibre, et peut-être que l'image que me donne le Bébé Chaud, c'est pas vraiment la réalité. C'est bon pour le bon peuple, pour se foutre de la tête des gens, mais la réalité, c'est un petit peu différent. Quoi. Ça m'a foutu un choc. Parce que même si je savais que c'était pas la réalité, bien sûr, je ne doutais pas à quel point il y avait un décalage entre ce qu'on montre. Qui sont rigolotes, hein, plus premier marée, bon, les lignoles, des trucs rigolos, mais prenons pas ça au pied de la lettre. On a trop tendance à considérer que c'est comme
voiture, c'est heureusement un petit peu différent. Toute considération politique mise à part, hein, que ce soit de droite ou de gauche, c'est de ce point de vue la même chose.
Devant une situation explosive, etc. Bon, une fois qu'on a fait ça, qui vous coûte beaucoup d'efforts, c'est très marrant parce que ça vous coûte beaucoup de travail pour 4 lignes. C'est tout. Hein ? On passe au premier paragraphe. Et là, c'est super parce que ça n'est jamais que la reprise de votre dossier de conception. Vous allez reprendre tout ce qu'on a dit sur les publics, mais en précisant le vocabulaire. D'accord ? Donc là, il va falloir être super précis, bien sûr. Entrer dans les catégories fines dont on... Pardon ?
Une deuxième partie, c'est... on a eu premièrement finalité, là, c'est...
Oh, bah, c'est le deuxième, si vous voulez. Oui, 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 je ne l'ai pas numéroté
exprès, pour vous laisser libre. Parce qu'il y a des gens qui diront, je mets les finalités en dehors de la numérotation, et je commence les publics en numéro 1. D'autres, au contraire, c'est un choix politique. Si je mets les finalités numérotées comme les autres, je diminue leur importance. Si je mets les finalités sans numéro, c'est vraiment le gros machin important, et après, premièrement, public, deuxièmement, etc. Pourquoi je ne l'ai pas numéroté? Pour vous laisser le choix de procéder comme vous voulez. Moi, mon conseil, franchement, c'est numéroter 1 à partir de public. Mais puis c'est cohérent avec le document que vous avez fait avant. Donc dans ce document, vous allez juste préciser ce que vous n'aviez pas dit. Par exemple, la faisabilité, que pour atteindre tel public, bah, faudra trouver les moyens, les autorisations, je ne sais pas quoi, voilà, les accès, qu'il faudra tenir compte des questions de culture, de sous-culture. Alors là, le communicant doit être au courant de tout ça. Hein. Le communicant au niveau fonctionnel. Hein. Il se doit de connaître...
sociétale, comme on dit, que vous allez voir avec M. Ayer, en les mains et en M2, c'est d'aller sur les deux années. Et donc, il se doit de connaître tout ça, d'être au courant, de raisonner, de vibrer, comme on dit, hein, sur ces choses-là. C'est un peu comme en pub. Pour être bon en pub, il faut être en phase avec la société du moment. Et d'ailleurs, c'est souvent le problème pour les vieux publicitaires. Et ils deviennent chefs. Il y a plus des petits jeunes qui sont beaucoup plus en phase avec la société telle qu'elle est à un moment donné. À mesure qu'on vieillit, on n'a pas la même perception des choses. C'est naturel. Mais sauf que si vos cibles, c'est plutôt les jeunes, ben voilà. Bon.
Donc les publics, voilà. Le deuxième, si je numérote comme ça. Vous retrouvez les objectifs. Alors là, attention. Je vous donne la ruse suprême. Vous allez reprendre les objectifs qui ont été classés. Vous allez présenter vos objectifs, rhétorique classique, par des phrases commençant par des verbes. Phrases commençant toujours par des verbes, et par des verbes forts. Je prétends qu'avec une cinquantaine de verbes, je traite 95% des cahiers des charges. Et vous allez les voir, les verbes. Promouvoir. À quoi ça sert la communication, si ce n'est à promouvoir une idée, promouvoir un produit, un service.
Et c'est pas forcément business, hein. Dans une association, vous allez promouvoir par exemple, telle action de don. Faire découvrir, faire apprécier. À chaque fois, je peux dire à quoi sert la communication, d'ailleurs. D'accord ? Je vais le mettre
une fois pour toutes en facteur. Développer. Développer quoi ? Bah, tout ce que vous voulez. Hein ? Développer l'attrait de nos nouveaux produits. Développer le désir pour les acheter.
Développer l'intérêt pour ce qu'on fait. Ou bien développer l'attention qu'on doit porter aux autres, si vous êtes dans du social, par exemple. Vous voyez, se développer, il va aller tout ce que vous voulez. Mais développer, c'est fort. Hein.
Bon. Informer. Celui-là, il est moins fort, mais quand on est à la com, parfois, il faut seulement informer. Informer le public des risques de, je ne sais pas trop quoi, en matière de prévention, ce que vous voulez. Bon. Favoriser. Favoriser l'émergence, la sortie. Favoriser l'éclosion, etc., etc. Recadrer. La communication, c'est pas les bisounours, hein.
C'est pas toujours développer gentiment, favoriser machin. Ça peut être je recadre les publics. Ils sont partis un peu partout. Non, les amis, on recadre. En com interne, par exemple, c'est indispensable parfois de recadrer les choses, de rappeler aux gens que ils sont là pour tel ou tel truc. Vous voyez ?
Ça peut être dur, hein, parfois. Déclencher l'émotion, déclencher ce que vous voulez, déclencher quelque chose. exploité, pas dans son sens post-marxiste. Hein.
Bien sûr, ça peut être exploiter les classes laborieuses, si vous voulez. Après tout, ça peut être marrant. Si vous êtes très très à droite, ça va être exploiter les classes laborieuses. Enfin, ok, pas de problème. Bon, non, ça peut être exploiter tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être exploiter, par exemple, telle opération publique médiatique qu'on a eue. On était très connus, donc on va exploiter, on appelle ça surfer sur la vague. On pourrait dire aussi, j'ai pas mis surfer d'ailleurs. Tiens, vous voyez.
Un qui est fort, la communication, c'est là aussi pour convaincre, peut-être, non ? En particulier en communication politique. Il faut bien convaincre vos électeurs de voter pour vous et de ne pas se promener. J'en présente une autre série en plus petit et en couleur qui sont du même tonneau, mais voilà, bon, présenter la nouvelle politique, les nouveaux produits, machin truc, annoncer, expliquer, accueillir, recevoir, commémorer, ça c'est bien commémorer, il faut de temps en temps commémorer, requalifier nos produits, leur image, donner envie, envoyer un message à telle catégorie de public, détruire des idées fausses, détruire une rumeur, détruire tout ce qui vous parasite, qui est négatif, détruire l'égoïsme, ça c'est beau comme programme, l'égoïsme au volant, détruire l'image positive de telle ou telle chose qui est dangereuse pour la santé. Et là, je vous en mets une autre série, désacraliser, reconstruire, faciliter, contrôler, produire, situer, traduire, émouvoir, c'est très fort d'émouvoir quand on arrive à émouvoir.
Ce matin, en M2, on a parlé des mémoires de M1, cet exercice que j'adore, on revit un petit peu tout ça, et ici, il y a bossé sur la com du théâtre, et donc je n'ai pas pu faire un petit mot sur notre personnage, je pense que c'est le plus grand metteur en scène français qui a passé sa vie, Olivier Purgé, un des plus grands. Metteur en scène, parce qu'il a fait du cinéma, du théâtre, que j'ai dit metteur en scène, il a été acteur aussi. Vous savez qu'il fut un temps, j'étais méchant avec les étudiants, je faisais faire à une personne qui était dans l'IRP une petite UE terrible. Les étudiants râlaient chaque année, donc qu'est-ce que c'est ça, vous vous embêtez en recul. Toutes les semaines, on leur posait des questions de culture générale, ils étaient notés dessus. Ah ouais, j'ai eu des moments terribles, épouvantables. Hein, hein. Alors c'est vrai que chaque année, j'avais le bureau des pleurs, hein, monsieur, on les prend contre. Hein, bah oui, mais c'est pas mal quand même. C'est pas au courant des grands trucs qui sont quand même. C'est quand même important. On dit qu'il y a un gros problème culturel. Hein. Un gros problème culturel. Il est mort hier soir, c'était annoncé hier soir, ce matin, plus de journaux. Une promo de M1, là au moins c'est pas des prérequis, ça, hein. Là je vous fiche à peu sur les prérequis. On parle plus de prérequis, on parle de culture générale, d'ouverture de l'esprit. Un étudiant comme doit avoir des bateaux souvent les mêmes idées de certains espaces. Oui. Ah bravo, quand même. Bien sûr, Patricia, qui a été dans les lignées de Jean Pilar, TNP, tout d'abord sur les TNP, de Planchon, il a travaillé avec Planchon. Qui a fait des grandes mises en scène à 24 ans, qui à 30 ans était au festival Bayreuth avec Pierre Boulez pour monter un ring de Wagner, qui est dans toutes les mémoires, qui était le renouvellement complet de la mise en scène de théâtre, à partir de laquelle d'ailleurs plein de metteurs en scène ont fait n'importe quoi. Bon, acteur dans des tas de films, grand metteur en scène de théâtre, réalisateur de films, un personnage absolument considérable, et qui a vraiment dans le théâtre. Bon, et ce matin sur France Culture en venant, je me suis dit, je vais écouter France Culture parce que forcément, ils vont faire quelque chose. Alors, il y a des témoignages de grands rédacteurs comme Jean-Pierre Vincent et autres. Et alors là, un truc, j'ai dit au M2, et je vous le dis aussi à vous, ce soir, branchez-vous sur France Culture, sur leur site web, écoutez l'émission de Saint-Papa. L'émission, écoutez les 2 minutes, la durée d'une minute, l'interview, pas l'interview, de l'intervention de Jane Birkin. On connaît Jane Birkin, pardon. Dont on pense qu'on veut. Non, mais écoutez ça. L'hommage que l'a rendu à Chéreau, moi j'ai failli arrêter de la que vous êtes un bon journaliste, que vous êtes un mauvais, vous prenez la parole. Là, c'était bon. Machette, c'est un bon. On sentait une émotion partout. Musique directement. Après des paroles pareilles, il n'y a que de la musique pour. Quand je parlais d'émotion, ben voilà. Et là, il y a une émotion, un hommage extraordinaire à ce type par quelqu'un dont je ne m'attendais pas du tout à ce que Jeff Birkin vienne lui rendre hommage. Du tout, quoi. Je ne m'y attendais pas, parce que c'est pas mon petit univers culturel. Hein. L'opéra Birkin, c'est un peu différent. Bon. Et c'était extraordinaire. Donc, il y a de temps en temps des gens qui feront passer l'émotion, et vous pouvez très bien dire que votre production, vous voulez que ça soit de l'émotion. On reviendra sur ça, hein. En particulier en théorie de la com, pour bien montrer que l'émotion, c'est pas différencier l'information. Il y a que les gens qui connaissent rien, ils disent que l'émotion et l'information, c'est pas pareil. Ça, c'est... Bon. On va encore une série. Partager, faire aimer, réagir, bouleverser, c'est du même ordre. Frapper, pas au sens. Bien sûr, frapper les imaginations. Donner du sens, former, exciter, mettre en perspective, etc. Avec ce répertoire de mots, de verbes, vous avez de quoi faire beaucoup, beaucoup de beaux cahiers des charges. Vous en choisissez 3, 4, bon, 5, vous allez arriver au bout. Il ne faut pas mettre trop d'objectifs. Si vous mettez trop d'objectifs, vous n'y parviendrez pas. Donc mettez-en 3, 4, éventuellement prenez les sous-objectifs. Ça, c'est une ruse. Hein, c'est comme hypothèse ou hypothèse. Vous mettez objectifs et puis sous-objectifs. Hein, sous-objectifs, ça, vous, ça va faire un peu plus de verbes. Ça va pas 6, 7, 8. Il y en a un seul que j'interdis à tout communicant. Alors, quand ton communicant vous l'employez, vous êtes fusillé sans sommation. Je vous tire dessus, vous êtes mort. Il y a un verbe que j'interdis, et le pire verbe qu'un communicant puisse employer, et qui est là, sur deux communicants, en quoi ? Non, celui-là, vous êtes mort. Je ne l'ai pas mis, parce qu'il est évident. Non, mais ce n'est pas méchant. Non. Il y en a un. Comment vous allez montrer à tout le monde que vous êtes nul de chez nul ? Que vous êtes un mauvais et que bah, votre poste il sert à rien et qu'on va vous foutre dehors pour récupérer l'argent pour prendre quelqu'un de plus utile que vous. Si vous voulez que ça vous tombe dessus, il faut utiliser un verbe. Hélas, c'est communicant. Personne n'osait dire, après ce que j'ai dit du verbe, là, vous. Si j'emploie, je vais dire, bon, mais je vais. À moins que quelqu'un veuille le dire, sans que je lui attribue autant. Hein. Non, il va. Il est horrible.
Sensibiliser. Comment ? On va payer un communicant ?
Ah, pour une entreprise, c'est au moins 40 KE annuels, plus les frais. Donc on va foutre 40 KE annuels, plus les frais. Un ou une gugus, bon, un, une, qui va sensibiliser un public. C'est quoi cette blague ? N'importe qui est capable de sensibiliser, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a fait des études de communication en bac plus 4, plus 5, pour sensibiliser. Mais ma concierge est capable de me sensibiliser le matin quand elle a un problème. Le pompiste qui je vais faire mon plein va me sensibiliser à son problème de pompiste et le marchand de journaux et compagnie, non, ils vont pas me sensibiliser ces gens-là. Est-ce que c'est des pros de la com ? Non. Donc si vous êtes en tant que pro de la com, juste capable de sensibiliser, très bien, bah, faites autre chose dans la vie. Plaf. C'est méchant, hein. Mais je considère que vous n'êtes pas payé pour sensibiliser. Vous êtes payé pour. Voilà. Payé pour ça. Ça, oui. Parce que ça. Il faut avoir de la compétence professionnelle pour atteindre ces objectifs. Sensibiliser, n'importe qui est capable de sensibiliser. Mais n'importe qui. Et votre compétence professionnelle, on a pu. Parti. Ouais.
Ensuite, on a le choix des médias. Je vous fais cette diapo quand même. Hein. On se fera une petite pause, mais je la termine parce que je veux avancer assez dans mon cahier des charges. Le choix des médias. Alors là, tout à l'heure, j'avais dit « on choisit tel média ». Dans cette partie, je dresse la liste des différents médias, très rapidement, que vous devez connaître, et dont vous devez connaître les caractéristiques. On n'aura pas le temps de tous les commenter, mais au moins vous voyez.
Diaporama, multivision, c'est la diapositive. J'en parle parce que ça existe toujours, et aussi parce que il y y a très longtemps, j'étais en France le spécialiste du diaporama. J'ai écrit deux bouquins sur le diaporama et la multivision. J'ai eu la chance d'être président de festival. Le diaporama, c'est des diapositives qu'on passe avec des projecteurs. Combien ? Minimum 2, mais ça peut être 50, 100 projecteurs, 200 projecteurs. Voilà. Ça se fait toujours. Quand est-ce qu'on fait du diaporama pour des trucs de prestige ? C'est très cher. Très cher. C'est beaucoup plus cher qu'un film. Ça se passe dans certains lieux prestigieux. Par exemple, en Provence, si vous connaissez les Hauts-de-Provence, il y a ce qu'on appelle cathédrale d'image. Et là, vous avez des diaporamas extraordinaires. Vous en avez déjà vu, peut-être ? Des vues fixes, mais alors qu'on voit un petit peu mobile, avec des bandes son extraordinaires, des sons qui vous éclatent dans les oreilles de tous les côtés, au-dessus, en dessous parfois, ouais. C'est vraiment des trucs extraordinaires. C'est très cher, c'est réservé à des grandes présentations. Par exemple, souvent dans la voiture, les constructeurs, quand ils sortent une nouvelle voiture et qui font une opération de relations publiques pour leur concessionnaire, font du diaporama. Je n'ai pas le temps de vous détailler pourquoi, juste un mot. L'image fixe s'ancre, se mémorise beaucoup plus que l'image animée. Si vous voulez déclencher l'émotion et le souvenir, ce sera l'image fixe. Un exemple précis, il y a un diaporama qui a été fait il y a quelques années, c'est le Grand Populaire qui l'a financé, il passait encore il y a 3 ans. 6 projets sur l'histoire de Saint-Étienne. Moi je l'ai vu 2-3 fois, pour des réunions importantes, mais il faut un budget pour passer ça. Hein. Il faut une journée de réglage de tout le système avant, vous voyez les coûts. Bon. Alors là, les Stéphanois, les mouchoirs étaient obligés à la fin. Tellement il y avait d'émotions sur l'histoire populaire de la ville, son passé, machin. Et ça, ça laisse des souvenirs indélébiles, beaucoup plus forts que la vidéo cinéma. Vous voyez, donc c'est un vieux moyen, c'est une vieille technique. Et aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs, les vieilles techniques se réfugient sur des niches. Et la niche, là c'est la niche, prestige, événement marquant, on fera du diaporama ou de la multivision. Si vous n'avez pas de budget, c'est même pas la peine d'y compter, c'est pas pour vous. La vidéo, bien sûr. La vidéo a été en difficulté par ses budgets qui étaient délirants. Aujourd'hui, le web diffuse beaucoup, sans arrêt, plus de vidéos. Et la vidéo revient, mais avec des moyens beaucoup plus faibles. On n'a pas besoin, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais si on veut juste tourner quelque chose de simple, une petite caméra et un bon montage pour monter sur un ordinateur permet de faire quelque chose de relativement propre. Donc les vidéos, c'est à vous de connaître la vidéo. Pour ça, il faut que vous soyez aussi cinéphile. Parce que vous allez dire, j'ai une vidéo à tourner à la manière d'un tel ou tel grand réalisateur cinématographique, par exemple. Je vais vite. Hein. Le cinéma, il n'y a que la pub qui puisse se l'offrir. Avez-vous remarqué que le seul moment où votre télé marche bien, diffuse des images superbes, c'est quand il y a la pub. C'est un comble. Je ne parle pas d'intérêt d'image, je parle de la qualité technique. C'est quand même un comble. Oui, le son est fort, mais ça, ok, mais l'image. Seulement, il est bien mon écran quand même. Il est chouette, il fait des belles images, des couleurs. C'est la pub. Pourquoi ? C'est tourné en 35 mm, cinéma, c'est parfaitement bien transcrit et vous avez une qualité exceptionnelle. Quand on passe un film de cinéma à la télé, c'est une vidéo qu'on a faite il y a longtemps et qu'on a numérisée, généralement c'est pourri. Il n'y a que quand on sort un grand film qui passe pour la première fois à la télé, alors là, la télé, même budget, ça coûte des milliers et des milliers d'euros que de transcrire un film cinéma pour que la vidéo puisse se passer. Donc le cinéma est un moyen tout à fait utilisé encore, en particulier en pub, ou pour des trucs de prestige. CD-ROM, DVD, c'est sur une phase descendante, mais il y a encore des pays, en France peut-être pas, mais dans lesquels les DVD se lisent bien. Ça se lit encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marque le pas avec les réseaux, comme chacun sait, bien sûr. Mais tout le monde n'a pas les réseaux, le haut débit, machin. Donc vous pouvez très bien choisir de faire par la vidéo qui est diffusée en DVD. Les bornes interactives, c'est pas que pour trouver votre chemin quand vous êtes dans une gare. Hein. Ça peut être aussi pour le tourisme. Il y en a beaucoup pour le tourisme. Il y en a pour la sécurité sociale, etc. etc. C'est un truc qui est très intéressant, qui coûte fort cher. Bien sûr, tout ce qui est de l'Internet, ça on en... Ok. Site, blog, réseau, Web 2... Web 3 peut-être déjà, ça vous allez en parler avec monsieur Demanger justement, hein, donc voilà. Le buzz, tout ça vous devez le connaître, bien sûr. La radio, on a une fille qui a fait un très bon mémoire en M1 l'an dernier sur une radio de Saint-Étienne, un très très joli boulot sur la radio et la force de la radio justement. Donc seulement la bande-son, la radio, les web radios,
les radios sur le web, bon, les web TV bien sûr, qui ont démocratisé l'accès aux radios ou au web. Une exposition, un vernissage. Ça, c'est chouette, vous pouvez très bien présenter un nouveau produit ou faire une opération de mécénat en mécénant un artiste, un peintre, un photographe, ce que vous voulez, un plasticien. Hein. Un événement, happening, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois, happening, performance. Rappelez-vous le peintre, là, dont je parlais tout à l'heure. Tout ce qui est du côté du print, ce qu'on appelle print dans notre jargon, donc journal, lettres, brochures, catalogues, prospectus et compagnie, flyers, bien sûr, publicité traditionnelle, sur les lieux de vente, marketing direct, tous les prospectus, ils sont là d'ailleurs. Toute autre opération de communication qui peut être bande dessinée, mince. C'est pas tout à fait celui que je voulais, c'est pas grave. Toute autre opération de communication, je le remets là, une seconde, voilà. Du genre théâtre d'entreprise, bande dessinée d'entreprise, mécénat, parrainage, autre forme de sponsoring, inviter vos clients à au départ, une grande manifestation, les places pour Garros, etc. Tout ça, c'est immédiat. Vous voyez que ma condamnation du marketing stupide avec ces 5 médias, je la fuis. Hein. Ça veut rien dire. Alors, ça veut dire support. Bon, d'accord, le problème, c'est qu'en fait, ils ont pris le bon média, malheureusement. Ils auraient dit des supports. C'est vrai que l'affiche, c'est pas le même support que la télé, ça, on avait noté quand même. Hein, mais il fallait prendre support et pas média. Média est un mot beaucoup trop riche, beaucoup trop polysémique pour pouvoir s'adapter à ce que le marketing en a fait. D'où le fait que là, quand on parle de médias, chacun d'eux sont des médias. Bien sûr. Ils ont l'état d'attribution d'un média qu'on verra, si vous voulez, en théorie, dans un moment. Voilà. Bon. Je voulais qu'on s'arrête sur cette diapo pour qu'on ait déjà quand même bien le panorama complet de ce sur quoi le communicant va pouvoir s'amuser. Parce qu'après, c'est votre terrain de jeu, ça. C'est votre terrain de jeu. On se fait une lettre interne, et hop. Et puis, est-ce qu'on se met un petit peu de web en même temps? Oh ben ouais. Et puis, peut-être, un petit événementiel, ça serait pas mal. Et vous voyez, vous mettez, vous combinez 2, 3, 4 trucs. Compte tenu du budget, compte tenu de... C'est là que vous allez montrer votre professionnalisme. Et en particulier, trouver des associations gagnantes pour associer entre eux les médias qui sont les plus efficaces, bien sûr. Il y a des combinaisons gagnantes et des combinaisons perdantes. Je ne peux pas vous dire pour le moment. Bon, on se fait une petite pause.
Il nous fait toujours des causeurs de troubles qui ne se rendent pas compte qu'ils font des troubles.
C'est pas vrai.